Commentaire sur 2 Corinthiens, introduction et partie 1. Document d'étude numéro F047. Commentaire sur les chapitres 1 à 4. Introduction. Pour comprendre l'Église corinthienne ainsi que les relations de Paul avec l'Église, il est nécessaire de revoir l'introduction au commentaire sur 1 Corinthiens. En outre, dans cette introduction, nous voyons que le texte fait référence à la lettre dans 2 Corinthiens comme suite. Objet, la lettre précédente. Paul a dit « Je vous ai écrit une lettre. Dans cette lettre, je vous ai dit de ne pas avoir des relations avec les impudiques. » Version du second, 1 Corinthiens 5, verset 9. Cette lettre est considérée comme perdue, ou un fragment de celle-ci peut maintenant être trouvé dans 2 Corinthiens 6, verset 14, jusqu'au chapitre 7, verset 1. Entre parenthèses, comparé Oxford RSV, note de bas de page. Paul mentionne une deuxième visite douloureuse. Paul a entendu dire que les problèmes à Corinthe étaient pires. Il a donc fait une deuxième visite. Il n'y a aucune trace de cette visite, mais Paul parle de sa troisième visite à Corinthe. Entre parenthèses, 2 Corinthiens 12, verset 14, chapitre 13, verset 1 à 2. Il a donc dû y avoir une deuxième visite. Objet, la lettre sévère. La visite de Paul n'a pas été couronnée de succès. Il a donc écrit une lettre alors qu'il se sentait très blessé. 2 Corinthiens 2, verset 4. Il était presque désolé de l'avoir envoyé. Certains auteurs pensent que les chapitres 10 à 13 de 2 Corinthiens sont issus de la lettre sévère. La lettre montre que les chrétiens de Corinthe ainsi que Paul sont redevenus amis. Paul était tellement inquiet au sujet de sa lettre sévère qu'il est allé rencontrer Titus. Tite avait apporté la lettre sévère à Corinthe. Paul a rencontré Tite en Macédoine et a appris que tout allait bien. Il a donc écrit les chapitres 1 à 9 de l'épître dans 2 Corinthiens. Certains érudits considèrent qu'il est possible que quelqu'un ait mis ensemble la lettre sévère et la lettre suivante dans le mauvais ordre. La lettre traite des problèmes de conduite chrétienne dans l'Église. Elle concerne la sanctification progressive ainsi que le développement continu d'un caractère saint. L'objet des chapitres est examiné ci-après. Cette lettre est considérée comme tombant à pic pour l'Église d'aujourd'hui. Les chrétiens ont été influencés par leur environnement culturel. Une grande partie des doctrines païennes qui existaient à l'époque et qui faisaient pression sur l'Église ont trouvé leur chemin et sont devenues des causes de division dans l'Église. Elles sont présentes aujourd'hui et ont encore de l'ampleur aujourd'hui. Au IVe siècle, les prêtres d'Attis à Rome se plaignaient que les chrétiens avaient volé toute leur doctrine, ce qui était effectivement vrai. Entre parenthèses, comparé de nouveau l'ouvrage sur Attis de Fraser, The Golden Boat, partie 4, volume 1 et 2. Ces problèmes tels que l'immaturité, l'instabilité, les divisions, la jalousie et l'envie, les procès, les difficultés conjugales, l'immoralité sexuelle et le mauvais usage des dons spirituels existent toujours. Une autre question qui doit être examinée est de savoir combien de fois Paul s'est rendu à Corinthe et quelles lettres ont été écrites. Tous ces éléments soulèvent des questions en soi, et nous essayerons d'extraire et de dégager ces informations à partir des textes. Nous savons qu'au moins trois lettres ont dû être écrites, et il est inconcevable que l'une d'entre elles ait pu être perdue. D'après la plupart des spécialistes, il ressort du texte que 2 Corinthiens apparaît en deux sections. La première est tirée des chapitres 1 à 9 et la seconde des chapitres 10 à 13. Nous examinerons les textes ci-dessous pour extrapoler davantage. Aperçu du livre 2 Corinthiens par E. W. Billinger. La deuxième épître aux Corinthiens, la structure de l'épître dans son ensemble. 2 Corinthiens 1 Verset 1 à 2, introduction. 2 Corinthiens 1, verset 3 à 11, remerciement. 2 Corinthiens 1, verset 12, caractère du ministère de Paul. 2 Corinthiens 1, verset 13 à 14, la présente épître. 2 Corinthiens 1, verset 15 à 16, la visite proposée. 2 Corinthiens 1, 17 à 24, 2 Corinthiens chapitre 2, verset 1 à 2, la justification de son action. 2 Corinthiens 2, verset 3 à 11, ancienne épître, objet. 2 Corinthiens 2, verset 12 à 13, pas de repos en esprit. 2 Corinthiens 2, verset 13, Macédoine, voyage. 2 Corinthiens 2, verset 14 à 17, remerciement. 2 Corinthiens 3, verset 1 à 2 Corinthiens 7, verset 4, caractère du ministère de Paul. 2 Corinthiens 7, verset 5 à 7, pas de repos dans la chair. 2 Corinthiens 7, verset 8 à 16, ancien épître, effet. 2 Corinthiens 8, verset 19, 2 Corinthiens 8, verset 15, Macédoine, assemblée. 2 Corinthiens 10, verset 1 à 2 Corinthiens 12, verset 13, la justification de son action. 2 Corinthiens 12, verset 14 à 2 Corinthiens 13, verset 1, visite motivée. 2 Corinthiens 13, verset 2 à 10, la présente épître. 2 Corinthiens 13, verset 11 à 14, conclusion. La deuxième épître aux Corinthiens, note introductive. Note 1. À partir de divers passages, nous apprenons que l'apôtre Paul a écrit cette lettre sous une forte pression de l'esprit. La partie personnelle de sa première lettre aux Corinthiens a eu son effet sur les membres obéissants de l'Église, voir les chapitres 2 et 7. Et il a écrit une seconde fois pour réconforter ceux-ci, ainsi que pour avertir un élément désobéissant. 2 Corinthiens 13, verset 2, 2 Corinthiens 13, verset 10. Il est clair que certains ont complètement nié son autorité. Et au chapitre 10, verset 13, il justifie une fois de plus avec force son apostolat, en particulier en ce qui concerne les faux enseignants, contre lesquels il a mis sérieusement en garde les Corinthiens. La revendication spécifique de l'autorité comme provenant de son Seigneur et Maître seul occupe une grande partie de cette épître. D'où également l'admonition, l'avertissement, que s'il venait, il ferait respecter cette autorité. Il y a beaucoup d'éléments qui indiquent l'anxiété, l'inquiétude de Paul pour toutes les églises, alors que dans les parties doctrinales se trouvent des présentations inégalées de l'amour divin en Christ. Note 2. Non seulement cette église était accablée de troubles internes, voir le chapitre 1, mais elle était également éprouvée de l'extérieur, 2 Corinthiens 11, verset 13, 2 Corinthiens 11, verset 15, comme le Seigneur lui-même l'avait prédit dans Matthieu 24, verset 9, Matthieu 24, verset 12. En guise de consolation, Paul leur a présenté, entre parenthèses 2 Corinthiens 4, verset 14, la même espérance de résurrection qu'il avait proclamée dans sa première lettre. Note 3. Timothée avait été envoyé à Corinthe, 1 Corinthiens 4, verset 17, et était sans doute revenu en apportant des nouvelles de la situation malheureuse de l'Église. Tite a livré la première lettre, et son retour ayant été retardé, Paul est passé de Troas à la Macédoine. Ou plus tard, Tite apporta de Corinthe, voir 2 Corinthiens 7, verset 7, 2 Corinthiens 7, verset 16, des rapports qui n'assuraient que partiellement l'apôtre, et l'a amené à envoyer la deuxième lettre par le même compagnon, collègue de travail. Note 4. Diverses explications ont été proposées concernant les conditions dans lesquelles l'épître a été rédigée. Certains pensent que, avant sa transmission, l'apôtre avait envoyé de la main de Timothée une lettre sévère qui a été perdue. Une autre suggestion est que Paul, ayant entendu parler de la confusion dans l'Église, a fait une visite précipitée à Corinthe depuis Éphèse, et constatant qu'il n'a rien reçu, mais qu'il a été mis à mal, s'est retiré dans une autre partie de l'Achaïe, ou en Macédoine, où il a rédigé la deuxième épître. D'autres points de vue encore sont avancés dans le même sens, mais tout ce que l'on peut dire, c'est qu'il s'agit de suppositions dont l'épître ne fait aucune mention. En reliant 1 Corinthiens 4, verset 19, 2 Corinthiens 1, verset 23, 2 Corinthiens 13, verset 2, l'apôtre n'était pas revenu à cause des désordres dans l'Église, quoi qu'on puisse entendre par la troisième fois au chapitre 13, verset 1. À 2 Corinthiens 1, verset 15 à 16, il a l'intention de venir à eux comme un second bienfait, et de passer en Macédoine pour revenir à eux, ce qui aurait été une troisième fois. Note 5. Écrite de Macédoine, peu de temps après que Paul ait quitté l'Asie, voir 2 Corinthiens 1, verset 8, l'épître ne serait pas de nombreux mois après l'envoi de la première épître. C'était probablement en l'an 57 après Jésus-Christ, en hiver, ou au printemps de l'an 58, voir l'annexe 180. Voyons maintenant la deuxième épître aux Corinthiens selon Wikipédia. La deuxième épître aux Corinthiens, communément appelée deuxième aux Corinthiens, ou par écrit 2 Corinthiens, est une épître paulinienne du Nouveau Testament de la Bible chrétienne. L'épître est attribuée à l'apôtre Paul et à un co-auteur nommé Timothée, et est adressée à l'église de Corinthe et aux chrétiens de la province voisine d'Achaïe, dans la Grèce actuelle. Composition. Bien qu'il y ait peu de doute parmi les savants sur le fait que Paul en est l'auteur, on se demande si l'épître était à l'origine une seule lettre ou si elle a été composée à partir de deux ou plusieurs lettres de Paul. Bien que le Nouveau Testament ne contienne que deux lettres adressées à l'Église de Corinthe, il ressort des lettres elles-mêmes qu'il en a écrit au moins quatre, et que l'Église lui a répondu au moins une fois. 1 Corinthiens 5, verset 9 nous dit « Je vous ai écrit dans une épître de ne pas fréquenter les fornicateurs » version King James. Fait référence à une lettre ancienne, parfois appelée lettre d'avertissement ou lettre précédente. 1 Corinthiens, la lettre sévère. Paul fait référence à une lettre dans les larmes antérieure, dans 2 Corinthiens 2, versets 3 à 4 et chapitre 7, verset 8. 1 Corinthiens ne correspond pas à cette description, donc cette lettre dans les larmes peut avoir été écrite entre 1 Corinthiens et 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 7, verset 1 indique que dans cette lettre, Paul répondait à certaines questions au sujet desquelles l'Église lui avait écrit. Le changement de ton abrupt, qui d'harmonie auparavant est devenu amèrement reprochable dans 2 Corinthiens chapitre 10 à chapitre 13, a conduit beaucoup de gens à déduire que les chapitres 10 à 13 font partie de la lettre dans les larmes, qui était en quelque sorte annexée à la lettre principale de Paul. Ceux qui ne sont pas d'accord avec cette évaluation disent généralement que la lettre dans les larmes n'existe plus. D'autres affirment que bien que la lettre dans les larmes n'existe plus, les chapitres 10 à 13 proviennent d'une lettre ultérieure. Le changement apparemment soudain de sujet du chapitre 7 au chapitre 8 à 9 amène certains chercheurs à conclure que les chapitres 8 à 9 étaient à l'origine une lettre séparée, distincte, et certains considèrent même que les deux chapitres étaient à l'origine eux-mêmes distincts. D'autres chercheurs contestent cependant cette affirmation. Certains chercheurs trouvent également des fragments de la lettre d'avertissement ou à d'autres lettres dans les chapitres 1 à 9. Par exemple, qu'une partie de la lettre d'avertissement est conservée dans 2 Corinthiens 6, verset 14, au chapitre 7, verset 1. Mais ces hypothèses sont moins populaires. Contexte. Les contacts de Paul avec l'église de Corinthe peuvent être reconstitués comme suite. 1. Paul visite Corinthe pour la première fois, y passant environ 18 mois, voire acte 18, verset 11. Il quitte ensuite Corinthe et passe environ 3 ans à Éphèse, voir acte 19, verset 8, chapitre 19, verset 10, chapitre 20, verset 31, environ de l'an 53 à l'an 57 après Jésus-Christ, voir l'article de 1 Corinthiens. 2. Paul écrit la lettre d'avertissement au cours de sa première année à partir d'Éphèse, 1 Corinthiens 5, verset 9. 3. Paul écrit 1 Corinthiens dès sa deuxième année à Éphèse. 4. Paul visite l'église corinthienne une seconde fois, comme il l'avait indiqué dans 1 Corinthiens 16, verset 6, probablement au cours de sa dernière année à Éphèse. 2 Corinthiens 2, verset 1 appelle cela une visite douloureuse. 5. Paul écrit la lettre dans les larmes. 6. Paul écrit 2 Corinthiens, indiquant son désir de visiter l'église corinthienne une troisième fois. Entre parenthèses, 2 Corinthiens 12, verset 14, 2 Corinthiens 13, verset 1. La lettre n'indique pas d'où il écrit, mais elle est généralement datée après que Paul ait quitté Éphèse pour la Macédoine. Acte chapitre 20, de Philippe ou de Thessalonique en Macédoine. 7. Paul a vraisemblablement fait la troisième visite après avoir écrit 2 Corinthiens, car acte 20, versets 2 à 3, indique qu'il a passé 3 mois en Grèce. Dans sa lettre à Rome, écrite à cette époque, il a envoyé aux Romains les salutations de certains des principaux membres de l'Église. Contenu. Dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, il se présente à nouveau comme un apôtre de Christ Jésus par la volonté de Dieu et rassure les gens de Corinthe en leur disant qu'ils n'auront pas une autre visite douloureuse. Mais ce qu'il a à dire n'est pas pour leur causer de la peine, mais pour les rassurer de l'amour qu'il a pour eux. L'épître est plus courte que la première et un peu plus déroutante si le lecteur n'est pas conscient de la situation sociale, religieuse et économique de la communauté. Paul estime que la situation à Corinthe est encore compliquée et se sent attaqué. Certains ont contesté son autorité en tant qu'apôtre, et il compare le niveau de difficulté à d'autres villes qu'il a visitées et qu'il avait embrassées, comme les Galates. Paul est critiqué pour sa façon de parler et d'écrire et trouve que c'est juste pour se défendre avec certains de ses importants enseignements. Il affirme l'importance de pardonner aux autres, la nouvelle alliance de Dieu qui vient de l'Esprit du Dieu vivant, 2 Corinthiens 3, verset 3, et l'importance d'être une personne de Christ et de donner généreusement au peuple de Dieu à Jérusalem, et termine par sa propre expérience de la façon dont Dieu a changé sa vie. Commentaire de Sandemel, 1979. Caractère unique. D'après le dictionnaire Eastern Bible Dictionary, cet épître, on l'a bien dit, montre l'individualité de l'apôtre plus que tout autre. La faiblesse humaine, la force spirituelle, la plus profonde tendresse d'affection, le sentiment de blessure, la sévérité, l'ironie, la réprimande, la justification passionnée, l'humilité, un juste respect de soi, le zèle pour le bien-être des faibles et des souffrants, ainsi que pour le progrès de l'Église de Christ et pour l'avancement spirituel de ses membres, sont tous affichés à tour de rôle au cours de son appel. Commentaire de Lias, 2e aux Corinthiens. Fin de citation de Wikipédia. Objet des chapitres. Chapitre 1. Nous voyons ici que Corinthe est le centre et le lieu de rencontre, de réunion de l'ensemble des saints qui se trouve dans l'Achaïe, verset 1. Le message transmet la paix de Dieu le Père, voir les versets 2 à 3. Il est décrit comme le Père des miséricordes et le Dieu de tout réconfort. Ainsi, Paul attribue le Père en tant que source de miséricorde et de réconfort pour les frères, afin que les frères puissent réconforter ceux qui ont aussi besoin de réconfort. Verset 4. Comme nous partageons les souffrances de Christ, nous partageons aussi abondamment la consolation. Ainsi, nous partageons et assistons en toutes choses avec Christ dans le corps de l'Église de Dieu. De même qu'ils sont persécutés et affligés et qu'ils endurent, de même ils sont alors réconfortés. Voir les versets 5 à 6. Paul déclare que leur espoir pour l'Église est inébranlable, car comme ils partagent leurs souffrances, ils partagent aussi leur réconfort. Verset 7. Paul dit qu'il ne veut pas qu'ils soient ignorants de la souffrance qu'ils ont vécue en Asie. Paul dit qu'ils ont été si complètement et insupportablement accablés qu'ils ont désespéré de la vie elle-même. Verset 8. Ils pensaient avoir reçu la sentence de mort, comme cela a été pris comme une raison de s'en remettre à Dieu plutôt qu'à eux-mêmes. Verset 9. Dieu les a délivrés de leur péril mortel, et ils ont placé leur espoir dans le fait que Dieu les délivrera à nouveau. Verset 10. Nous ne savons pas avec certitude quelle était la nature exacte de ce péril. On suppose que ce texte a été écrit depuis la Macédoine, acte chapitre 20, soit à Philippe, soit à Thessalonique. Acte 20, versets 2 à 3 indique que Paul a passé 3 mois en Grèce. Sa 3e visite à Corinthe est supposée avoir eu lieu pendant ce temps, et dans sa lettre à Rome, écrite de là-bas, Paul envoie les salutations de membres imminents de l'église de Corinthe. À partir du verset 11, il leur demande de rendre grâce dans la prière afin que de nombreuses personnes rendent grâce pour l'aide qu'elles ont demandée dans la prière. Au verset 12, Paul dit que leur fierté est la suivante. Ils se sont comportés dans le monde et envers eux avec sainteté et piété, non par la sagesse terrestre, mais par la grâce de Dieu. Car ils n'ont écrit à l'Église que ce qu'ils pouvaient lire et comprendre, et ils espèrent qu'ils comprennent pleinement. Verset 13. Comme ils l'ont compris en partie, pour qu'ils puissent être fiers les uns des autres au jour du Seigneur. Verset 14. Comparez le document d'étude le jour du Seigneur et les derniers jours, numéro 192. À partir du verset 15, Paul donne ensuite un indice important concernant ses visites. Paul indique qu'il effectuera 2 visites, une visite sur son chemin vers la Macédoine et la suivante sur son chemin de retour de Macédoine. Et alors, il pourrait l'envoyer sur son chemin vers la Judée. C'était sans doute avec la collecte dont il a parlé dans la lettre précédente, 1 Corinthiens 16, versets 3 à 4. Paul semble vouloir corriger toute apparence de légèreté, d'hésitation, comme il le dit au verset 17. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de légèreté? Il demande alors s'il a fait ses plans comme un homme du monde, prêt à dire oui et non à la fois. Mais en Christ le Fils de Dieu, c'est toujours oui. Car toutes les promesses de Dieu trouvent leur oui en lui. C'est pourquoi nous prononçons l'amen à travers lui et ce à la gloire de Dieu. Paul dit que c'est Dieu qui les a établis avec l'Église et qui les a commissionnés et a mis son sceau sur eux et leur a donné son esprit dans leur cœur comme garantie. Paul les identifie ici comme les 3, comme Paul, Sylvain et Timothée, voir les versets 17 à 22. Il conclut ensuite le chapitre en disant « Mais j'appelle Dieu à témoin contre moi. C'est pour vous épargner que je me suis abstenu de venir à Corinthe. Non pas que nous soyons les maîtres de votre foi, car nous travaillons avec vous pour votre joie, pour vous. Restez fermes dans votre foi. » Versets 23 à 24. Il n'est pas clair si l'abstention de se rendre à Corinthe mentionnée était la visite sur le chemin de la Macédoine ou sur le chemin du retour, ou si elle se réfère à une autre visite prévue non mentionnée. Chapitre 2. Au verset 1, Paul dit qu'il a décidé de ne pas leur faire une autre visite douloureuse. Car s'il leur cause de la peine, qui est là pour le réjouir, sinon ceux qu'il a fait souffrir? Verset 2. Paul dit qu'il a écrit comme il a fait, pour que lorsqu'il viendrait, il ne souffre pas de la part de ceux qui auraient dû le réjouir. Paul dit qu'il était sûr de tous que sa joie allait être celle de tous. Verset 3. Paul leur a écrit par beaucoup d'afflictions, d'angoisses du cœur, ainsi que de nombreuses larmes, non pas pour leur causer de la douleur, mais pour leur faire prendre conscience de l'amour que Paul avait pour eux. Verset 4. De nombreux chercheurs identifient cette lettre au chapitre 10 à 13, ci-après. Mais il n'y a aucune certitude à ce sujet. Souvenez-vous que Corinthe était criblée de factions, et que plusieurs venaient de l'immoralité et de la prostitution dans les temples, d'où l'utilisation des voiles mentionnés par Paul dans la première épître. Ils ont dû expulser le fornicateur corinthien de 1 Corinthiens 5, verset 5, et cela a sans doute provoqué des conflits jusqu'à ce qu'il se repente et demande sa réadmission. C'est à cause de cela que les membres en sont venus à comprendre la puissance du repentir et baptême. Voir le document numéro 052. Cet aspect n'est pas bien compris par les églises de Dieu modernes. Du verset 5 et suivant, Paul fait remarquer que si l'un d'entre eux cause de la douleur, ce n'est pas à un seul mais à tous, et que la punition de la majorité est suffisante, et que l'Église doit alors se tourner vers la personne pour lui pardonner et la réconforter, de peur qu'elle ne soit accablée par une douleur excessive. Paul les supplie alors de pardonner et de réaffirmer leur amour pour l'offenseur. Verset 8. L'Église a donc le pouvoir de pardonner et de retenir le péché. Et Paul affirme cette capacité, voir le verset 10. Tout cela est au profit des élus en présence de Christ, pour empêcher Satan de prendre l'avantage sur eux, car ils ne sont pas ignorants de ses voies. Verset 11. Au verset 12, il parle de sa venue à Troas pour y prêcher l'évangile de Christ, et une porte lui fut ouverte. Il semble troublé parce qu'il n'y a pas trouvé Tite, et il s'est donc rendu en Macédoine. Cela indique que sa décision de ne pas se rendre à Corinthe était sur le chemin pour la Macédoine. Au verset 14, il dit que Dieu nous conduit toujours dans le triomphe, et qu'à travers nous, Dieu répand partout sa connaissance, car nous sommes l'arôme de Christ pour Dieu, parmi ceux qui sont sauvés, et parmi ceux qui périssent. Verset 15. Paul dit que nous sommes un parfum de mort, donnant la mort aux uns, aux autres un parfum de vie, donnant la vie. Qui est suffisant pour ces choses? Verset 16. Paul dit ensuite que les élus ne sont pas comme tant d'autres colporteurs marchands de la parole de Dieu, mais comme des hommes sincères, mandatés par Dieu, aux yeux de Dieu, ils parlent en Christ. Verset 17. Voyons maintenant le chapitre 3. Paul demande alors s'ils, c'est-à-dire les trois, commencent à se recommander à nouveau, ou s'ils ont besoin, comme certains le font, de lettres de recommandation d'eux ou à destination de Corinthe. Au verset 2, il dit ensuite que l'Église elle-même et ces lettres de recommandation écrites sur leur cœur, là, dans l'Église, pour être connues et lues par tous les gens. Au verset 3, Paul dit qu'ils doivent savoir qu'ils, l'Église, sont une lettre de Christ délivrée pour eux, écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit. Voir le document numéro 117 du Dieu vivant. Non pas écrite sur des tables de pierre, mais sur des tables de cœur humain. Paul explique ainsi la fonction de l'Esprit-Saint qui écrit les lois de Dieu, voir le document L1, dans le cœur des hommes. Paul poursuit ainsi dans les versets 4 à 6 pour expliquer que telle est la confiance qu'ils ont en Dieu à travers Christ. Non pas qu'ils aient eu confiance en eux-mêmes pour prétendre que quelque chose venait d'eux, mais leur confiance vient de Dieu. qui les a tous rendus confiants pour être les ministres d'une nouvelle alliance, non pas dans un code écrit, mais dans l'esprit. Car le code écrit tue, mais l'esprit donne la vie. L'esprit donne du pouvoir aux élus et les lie à Dieu à travers Christ. À partir du verset 7 et suivant, Paul fait référence à la dispensation de la mort qui est venue de la loi par l'intermédiaire de Moïse. Souvenez-vous que Paul dit dans 1 Corinthiens 10, verset 1 à 4, que c'est Christ qui était avec Israël dans le désert, et que c'est Christ qui a donné la loi de Dieu à Moïse. Actes 7, verset 33 à 55 montre que Christ était l'ange de la présence, par lequel Dieu a donné la loi à Moïse. Cependant, Paul fait ici la distinction que la loi gravée dans la pierre ne pouvait pas donner la vie, même si le visage de Moïse brillait à partir de son exposition au Christ dans le don ou l'octroi de la loi, et que c'était seulement par l'Esprit que l'humanité pouvait atteindre une plus grande splendeur et obtenir la vie éternelle. S'il y avait de la splendeur dans la dispensation de la condamnation, la dispensation de la justice doit la dépasser de loin en splendeur. Versets 7 à 9. C'est ce que dit Paul. En effet, dans ce cas, ce qui avait autrefois de la splendeur n'en a plus du tout pour la splendeur qui le surpasse. En effet, si ce qui a eu de la splendeur n'en a plus du tout, ce qui est permanent doit avoir beaucoup plus de splendeur. Versets 10 à 11. Au verset 12, Paul développe ensuite cette structure en la puissance de l'Esprit-Saint, dépassant la loi de Dieu, telle qu'elle est exercée sous la loi cérémonielle, pour en faire une institution plus puissante dans la justice sous la Nouvelle Alliance, où elle pourrait être donnée aux individus sur une plus grande échelle que par les patriarches, les prophètes, les prêtres, sacrificateurs, sous le système du Temple. Comparez le document d'étude « La distinction dans la loi » numéro 096, « Consubstantiel au Père » numéro 081, et la relation entre le salut par la grâce et la loi, numéro 082. Paul dit que Moïse a mis un voile sur son visage pour couvrir la gloire de Christ quand il lui a donné la loi. Les cœurs d'Israël s'étaient endurcis, et ce jusqu'à ce jour. Lorsqu'ils lisent l'Ancien Testament, le voile n'est pas levé, entre parenthèses, n'étant pas révélé, selon Conybeare et Hanson. Car ce n'est que lorsqu'une personne se tourne vers Christ que le voile est levé, entre parenthèses, pour le baptême et après le baptême, et ce, à travers l'Esprit-Saint, versets 15 à 16. Ce voile demeure jusqu'à ce jour, sauf pour les baptisés adultes repentis dans les églises de Dieu qui observent la loi de Dieu, voire ci-dessus dans ce document. Paul dit que le Seigneur est l'Esprit, et que là où se trouve l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, verset 17. Paul dit que tous ceux qui ont le visage dévoilé et qui contemplent la gloire du Seigneur, sont changés à sa ressemblance, d'un degré de gloire à un autre, car cela vient du Seigneur, qui est l'Esprit. L'Esprit Saint vient de Dieu, et à travers le sacrifice de Christ à Jérusalem, l'Esprit Saint a été mis à la disposition de l'être humain par Christ, à partir de l'offrande de la gerbe agitée, le premier jour de la semaine. Comparez le document d'étude le moment de la crucifixion et de la résurrection, numéro 159. La distinction qu'il fait est que la loi de Dieu ne pourrait pas être observée sans l'Esprit-Saint, qui la graverait dans le cœur des hommes, et qui la garderait, observerait dans l'Esprit. Car par ce moyen, les élus partageraient la nature de Dieu, et dans ce processus, la loi serait gardée et observée dans leur cœur. Et ils obéiraient à la loi parce que la nature de Dieu serait en eux par l'Esprit-Saint. Jusqu'au Christ, l'Esprit-Saint était donné par Dieu sur une base de délégation aux patriarches et aux prophètes. L'antinomien prétend que le Nouveau Testament supprime, abolit la loi de Dieu, ce qui montre à quel point les antinomiens comprennent mal le fondement de la loi de Dieu qui découle ou provient de la nature de Dieu et de la fonction de l'Esprit-Saint, voir le document numéro 117, et pour l'obtention de la vie éternelle, voir le document numéro 133. Chapitre 4. Paul poursuit ensuite au chapitre 4 pour développer les activités de l'Esprit-Saint dans les élus. Il dit qu'ils ont le ministère par la miséricorde de Dieu et qu'ils ne perdent pas courage. Verset 1. Ils ont renoncé aux voies honteuses et sournoises. Ils refusent de pratiquer la ruse et de trafiquer, falsifier, altérer la parole de Dieu. Mais par la déclaration ouverte de la vérité, ils se recommandent à la conscience de chaque homme aux yeux de Dieu. Ceci était une prophétie concernant la falsification de l'écriture de la part des massorètes, qui devaient voir leur texte massorétique modifié en 134 endroits concernant l'application de Yahovah à Adonai, et aussi l'application d'Elohim en 13 endroits, et aussi dans Deutéronome 32, verset 8, dans le texte massorétique. Cela avait pour but de dissimuler l'application de la distinction Yahovah, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3068, et Yahovi, voir le dictionnaire hébreu de Strong numéro 3069 dans l'Ancien Testament. Cependant, elle n'a pas pu être complètement éliminée. Les contrefaçons et les altérations n'ont cependant pas atteint leur apogée avant le Receptus et sa publication dans la Bible version King James. La plupart de ces altérations sont énumérées par Bullinger dans ses notes pour la King James, placées avec ses textes. Les athanasiens ont essayé de retirer le livre de la Révélation, l'Apocalypse, du Codex au IVe siècle, parce que le texte condamnait de façon si évidente l'Église de Rome et son binitarisme, trinitarisme, et ses adoptions, imitations païennes des cultes du soleil et des mystères. Cela a été tellement accepté que lorsque Pierre a dit qu'il écrivait de Babylone, Bagdad, ils ont supposé qu'il voulait dire que c'était Rome où se trouve le siège de Satan. Tout comme ils ont essayé d'abolir les sabbats, les nouvelles lunes et les fêtes de l'Église à la Odyssée en l'an 366 de notre ère, ils ont commencé les persécutions par la suite. Comparez le document d'étude « Le rôle du quatrième commandement » dans l'histoire des Églises de Dieu observant le sabbat numéro 170. Les Églises de Dieu ont commencé à être persécutées à partir de l'an 590 de notre ère, avec la fondation du Saint-Empire romain par Grégoire Ier. Ils ont tenté de faire disparaître le calendrier de Dieu, numéro 156, comme nous le voyons à partir du document numéro 170 ci-dessus, dans ce document. Voir aussi la Bible, numéro 164, les présumées contradictions de la Bible, numéro 164b, la destruction antinomienne du christianisme par une mauvaise utilisation de l'écriture, numéro 164c, les attaques antinomiennes contre la loi de Dieu, numéro 164d, le déni du baptême par les antinomiens, numéro 164e, les forgeries et les ajouts erreurs de traduction dans la Bible, numéro 164f, forgeries et erreurs de traduction se rapportant à la position de Christ, numéro 164g. En l'an 358 de notre ère, les Juifs, sous Hillel II, ont introduit un faux calendrier pour tenter de corrompre le calendrier du Temple, ci-dessus, dans ce document d'étude. Comparez le document d'étude Hillel, les intercalations babyloniennes et le calendrier du Temple, numéro 195c. Ce calendrier a été entièrement rejeté par les Églises de Dieu en tant que foi, jusqu'à ce que Duggar et Armstrong l'introduisent dans les années 1940. Au verset 3, Paul dit que même si l'Évangile est voilé, il n'est voilé que pour ceux qui périssent. Paul se réfère au verset 4 à Satan comme le dieu de cet âge, entre parenthèses « Eionas », traduit incorrectement par « monde » ou « siècle » dans la Louis II, qui a aveuglé les esprits des non-croyants pour les empêcher de voir la lumière de la gloire de Christ, qui est la ressemblance, l'image de Dieu. Paul dit que, quand ils prêchent, ce n'est pas pour eux-mêmes, mais Jésus-Christ comme Seigneur, et eux comme serviteurs de la foi, verset 5. Paul dit « car c'est le Dieu », en grec on dit « hotéos », qui a dit « que la lumière brille du sein des ténèbres, qui a resplendi dans nos cœurs pour donner la lumière de la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ, verset 6. Souvenez-vous que c'est la gloire de Dieu qui a brillé de Christ, qui a irradié Moïse lorsque Moïse a reçu la loi au Sinaï. Dans le koiné grec, ho theos est accompagné ici de tout théou, entre parenthèses également ton théon, en suivant également les règles utilisées par Jean, voir Jean 1, verset 1, ainsi que la Septante. Paul poursuit au verset 7, « Mais nous portons ce trésor dans des vases de terre, pour montrer que la puissance transcendante appartient à Dieu, et non aux élus. » Paul dit qu'ils sont affligés de toutes les manières possibles, mais non réduits à l'extrémité. Dans la détresse, mais non dans le désespoir. Persécutés, mais non abandonnés. Abattus, mais non perdus. Portant toujours dans leur corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans leur chair mortelle. Ainsi, la mort est à l'œuvre en eux, mais la vie dans l'Église. Au verset 13, Paul dit que puisque nous avons le même esprit que celui qui a écrit « J'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé », entre parenthèses, « mais j'ai été grandement affligé », voir psaume 116, verset 10, dans la Septante 115, c'est une preuve supplémentaire que Paul a citée directement à partir de la Septante, comme étant la Bible de l'Église primitive. Paul poursuit, « Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous amènera et fera paraître avec vous l'Église de Corinthe, entre parenthèses, en sa présence, verset 14. Ceci identifie la première résurrection où l'Église est ressuscitée avec Christ et les apôtres lors de sa venue. Paul poursuit au verset 15 et suivant, « Tout cela arrive pour vous, afin que la grâce s'étende à un nombre toujours plus grand de personnes, et qu'elle augmente l'action de grâce à la gloire de Dieu. Ainsi, nous ne perdons pas courage. Bien que notre nature extérieure se dégrade, notre nature intérieure se renouvelle chaque jour. Car cette légère affliction momentanée nous prépare un poids éternel de gloire au-delà de toute mesure. Car nous ne regardons pas aux choses qui sont visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses qui sont visibles sont passagères, mais les choses qui sont invisibles sont éternelles. » Nous allons maintenant lire 2 Corinthiens dans la version Louis II, les chapitres 1, 2, 3 et 4. Chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, et à tous les saints qui sont dans toute l'Achaïe, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père des miséricordes et le Dieu de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions, afin que par la consolation dont nous sommes l'objet de la part de Dieu, nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans quelque affliction. Car de même que les souffrances de Christ abondent en nous, de même notre consolation abonde par Christ. Si nous sommes affligés, c'est pour votre consolation et pour votre salut. Si nous sommes consolés, c'est pour votre consolation, qui se réalise par la patience à supporter les mêmes souffrances que nous endurons. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Nous ne voulons pas, en effet, vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés, au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. C'est lui qui nous a délivrés, et qui nous délivrera d'une telle mort, lui de qui nous espérons qu'il nous délivrera encore. Vous-mêmes aussi nous assistant de vos prières, afin que la grâce obtenue pour nous par plusieurs soit pour plusieurs une occasion de rendre grâce à notre sujet. Car ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde, et surtout à votre égard, avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. Nous ne vous écrivons pas autre chose que ce que vous lisez et ce que vous reconnaissez. Et j'espère que vous le reconnaîtrez jusqu'à la fin, comme vous avez déjà reconnu en partie que nous sommes votre gloire, de même que vous serez aussi la nôtre au jour du Seigneur Jésus. Dans cette persuasion, je voulais aller d'abord vers vous, afin que vous eussiez une double grâce. Je voulais passer chez vous pour me rendre en Macédoine, puis revenir de la Macédoine chez vous, et vous m'auriez fait accompagner en Judée. Est-ce que, en voulant cela, j'ai donc usé de la légèreté? Ou bien mes résolutions sont-elles des résolutions sur la chair, de sorte qu'il y ait en moi le oui et le non? Aussi vrai que Dieu est fidèle, la parole que nous vous avons adressée n'a pas été oui et non. Car le Fils de Dieu Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain et par Timothée, n'a pas été oui et non, mais c'est oui qui a été en lui. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. Et à celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqué d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Or, je prends Dieu à témoin sur mon âme que c'est pour vous épargner que je ne suis plus allé à Corinthe. Non pas que nous dominions sur votre foi, mais nous contribuons à votre joie, car vous êtes fermes dans la foi. Chapitre 2. Je résolus donc en moi-même de ne pas retourner chez vous dans la tristesse. Car si je vous attriste, qui peut me réjouir, sinon celui qui est attristé par moi? J'ai écrit comme je l'ai fait, pour ne pas éprouver à mon arrivée de la tristesse de la part de ceux qui devaient me donner de la joie, ayant en vous tous cette confiance que ma joie est la vôtre à tous. C'est dans une grande affliction, le cœur angoissé, et avec beaucoup de larmes, que je vous ai écrit, non pas afin que vous fussiez attristés, mais afin que vous connussiez l'amour extrême que j'ai pour vous. Si quelqu'un a été une cause de tristesse, ce n'est pas moi qui l'a attristé. C'est vous tous, du moins en partie, pour ne rien exagérer. Il suffit pour cet homme du châtiment qui lui a été infligé par le plus grand nombre. En sorte que vous devez bien plutôt lui pardonner et le consoler, de peur qu'il ne soit accablé par une tristesse excessive. Je vous exhorte donc à faire acte de charité envers lui, car je vous ai écrit aussi dans le but de connaître, en vous mettant à l'épreuve, si vous êtes obéissant en toutes choses. Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous, en présence de Christ, afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, quoique le Seigneur m'y eût ouvert une porte, je n'eus point de repos d'esprit, parce que je ne trouvais pas Tite, mon frère. C'est pourquoi, ayant pris congé d'eux, je partis pour la Macédoine. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Chapitre 3. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes? Ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous, ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit. Car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort, gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté, et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage, pour que les fils d'Israël ne fixâmes pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, et ce voile ne se lève pas. Parce que c'est en Christ que ce voile disparaît. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Chapitre 4. C'est pourquoi, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret, nous n'avons point une conduite astucieuse, et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ, le Seigneur, que nous prêchons, et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres » a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé », nous aussi nous croyons et c'est pour cela que nous parlons, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce en se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un plus grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Si après dans ce document les notes de Billinger sur 2 Corinthiens, les chapitres 1 à 4 pour la Bible version King James, disponible en anglais uniquement. Fin de la lecture du document d'étude commentaire sur 2 Corinthiens, introduction et partie 1, F047.